ou afrique.com.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Sporama, votre émission hebdomadaire qui parle de sport sur la voie de l'Amérique. La première en cette année 2021. Et enfin, le début du championnat au Bénin. Après moult hésitations, les autorités du foot, en accord avec le gouvernement, lancent les activités. En match inaugural, le champion Buffle est le vainqueur de la Coupe ESAE. La Fédération ivoirienne de football n'a plus les cartes en main en Côte d'Ivoire. La FIFA a mis en place un comité de normalisation pour relancer le processus électoral miné par certains couacs. Et pour parler de tout ceci, on retrouve nos consultants. En direct de Columbus, dans l'Ohio, nous avons Amédine Sy. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Valdo Simbo Yamba Yamba nous rejoint depuis Kinshasa en RDC. Valdo, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Nous retrouvons Amine Birouk du côté de Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Et puis, dans ce studio avec moi, Lawal Dim Kosourou. Bonsoir Lawal.
Élisée, bonsoir.
Bienvenue à tous. Après son assemblée générale extraordinaire, la Fédération béninoise de football a lancé sa saison avec le match Buffle du Borgou Esaü de Cotonou. Et au thème de cette explication, ce sont les étudiants qui se sont facilement imposés 3-0 devant une équipe des Buffles qui ne s'est pas encore remis de son élimination de la Ligue des Champions. Lawal, un très beau match entre deux Africains.
Oui, un très beau match entre deux clubs qui, virtuellement, l'un est déjà carrément sorti du groupe, l'autre va donc voir sa dernière rencontre se jouer mercredi. Mais quand on regarde un peu les scores par lesquels...
Le Buffle... score est flatteur puisque le contenu est très moyen.
Non, écoutez, comme le niveau du championnat le montre si bien au Bénin, le plus discipliné sur le terrain l'a emporté 3-0. Voilà. Alors que à l'extérieur, il se fait flanquer un 4-0 pendant que l'autre en prend un bon paquet. Donc, c'est toute la qualité du foot du championnat béninois qui est remise en cause. Donc, on espère que les choses vont s'arranger pour que le championnat béninois puisse mieux se vendre à l'extérieur.
Les Buffles ont justement 3 semaines pour remettre leur titre en jeu puisque le championnat démarre le 30 janvier prochain. Mais avant, la CAF a adressé une correspondance à la fédération lui notifiant que la saison 2020-2021 doit prendre fin le 1er juin prochain. Lawal, voilà les conséquences du retard. Est-ce qu'on pourra finir dans le délai quand on sait que ce nouveau championnat va se jouer avec 34 clubs?
34 clubs pour 4 mois de championnat, ça va être compliqué. C'est une course contre la montre. On attend donc le calendrier qui va être très très serré, qui va éprouver.
On risque d'avoir 3 matchs par semaine.
Et même parfois même plus. Il y a tout un conglomérat de situations qui pourraient empêcher d'aller au 1er juin. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est que ça ait repris enfin avec la bénédiction du gouvernement. Mais ce que je plains, c'est les joueurs qui vont être timorés, qui vont donner le meilleur pour quelle qualité du foot. Voilà toute la question que moi je me pose.
Amédine Sy, le football a repris au Sénégal?
Tout à fait, Élisée. Le ballon a commencé à circuler au Sénégal depuis ce week-end avec la reprise du championnat national de football professionnel après près de 10 mois de pause forcée à cause de la pandémie coronavirus. Mais sachez, Élisée, également que c'est une reprise sous mode COVID-19 car toutes les rencontres se sont jouées à huis clos avec le respect des mesures barrières, Élisée. Seules 90 personnes ont eu des autorisations pour rentrer dans les stades. Il y a eu des restrictions sur le nombre de jours, des officiels, mais également des journalistes, car 15 reporters sportifs seulement ont eu le privilège de couvrir les matchs de reprise Élysée. À cela, il faut ajouter le port obligatoire de masques au stade, le lavage des mains et l'utilisation du gel antiseptique et le respect de la distanciation sociale. Retenez enfin que pour la reprise, Jambar et Lash Douane ont bien entamé la saison en s'imposant respectivement devant Niari Tali et Senef de Thiès Élysée.
On revient vers vous, Lawal. Après ce match de championnat, EZAE s'est tourné vers son match retour de la Coupe de la CAF contre les Marocains du TAS mercredi à Porto Novo. La mission s'annonce difficile, voire compliquée, mais pas impossible.
Non, Élisée, il est permis de rêver pour les poulains de Clément Adéchian. Le rêve est permis, mais ici, soyons réalistes, soyons objectifs au regard de ce qu'ils ont produit les étudiants face au Buffle et quand on voit la qualité de l'équipe adverse et quand on se rappelle le score 4-0, une remontada est bien possible, mais ne rêvons pas. Les espoirs seront donc limités. Mais
il faudra sauver l'honneur, au moins gagner.
En marquant un but au moins, il vaut mieux espérer sauver l'honneur en marquant un but au moins.
Amine Birouk, 4 clubs marocains sont aux portes d'une qualification pour la phase de poule des interclubs de la CAF.
Il y a tout de même une nuance, Élisée, puisque rien n'est fait pour les clubs marocains, y compris pour le Raja, qui avait réussi à tenir en échec la formation sénégalaise de Tanguet 0-0. Encore moins pour le Wydad de Casablanca, battu à Bamako 1-0 par le Stade Malien. Le Wydad qui va devoir se réveiller, marquer 2 buts au minimum et n'en concéder aucun à Casablanca. Rencontre prévue mercredi à partir de 16h GMT. Ce sera également le cas pour la Renaissance sportive de Berkane qui avait été tenue en échec à Nouakchott par la formation mauritanienne de Tefrat Zena. Ce sera un peu plus évident pour la formation du TAS de Casablanca, club de deuxième division qui avait réussi à battre ESAE du Bénin sur le score sans appel de 4-0. Autant dire que les 3 gros du football marocain sont avisés. La moindre défaillance pourrait leur valoir une sacrée mésaventure. Un club marocain avisé en vaut 2.
Valdo, à Kinshasa, 3 clubs congolais sont concernés et ils sont d'ailleurs bien placés pour valider leur billet.
Comme vous l'avez dit, Élisée, bien placés pour assurer leur ticket au prochain tour. Mais attention, ça s'obtient sur les terrains puisque rien n'étant acquis d'avance. Quand on sait qu'en Ligue du champion de la CAF, Mazembe a dû courir derrière les scores avant de l'emporter face aux Zambiens des Bungoudi de Buzin 1. Avec le retour aux commandes des Miayo, les Corbeaux ne vont certainement pas tergiverser pour s'offrir ces tickets. V-Club, qui a montré du caractère au match aller en arrachant le nul à 2 minutes de la fin du match, alors qu'ils étaient menés 2-0, sera beaucoup plus prudent à domicile en évitant pareil scénario afin d'assurer cette qualification qui pense déjà à leur faveur dès le coup d'envoi de ses face-à-face. En Coupe de la Confédération, vainqueur 1-0 des Angolais, le DSMP a reçu un coup en championnat battu 2-0 à domicile et se voit dans l'obligation de retrouver ses arguments avant de s'offrir cette qualification tant souhaitée par ses nombreux supporters.
Ahmedine, les 2 représentants sénégalais doivent eux se battre pour sortir la tête de l'eau vu le résultat du match aller.
Tout à fait, Élisée, les 2 représentants sénégalais après leur contre-performance des matchs aller, en effet, Tanguet FC a été tenu en échec par le Raja de Casablanca à domicile sur le score de 0-0 en Ligue des Champions. Et le Djaraf a courbé les chines face aux Ivoiriens de San Pedro, score de la rencontre 1-0. C'était en Coupe de la CAF. Il faut dire que ces 2 formations sont condamnées à l'exploit. Une mission qui sera très difficile car les 2 clubs sénégalais doivent impérativement réaliser un bon résultat à l'extérieur. Mais force est de reconnaître que ce sera très très difficile, surtout pour Tanguet FC qui est un néophyte. Tanguet FC n'a que 3 matchs de Ligue des Champions dans les jambes et les poulains de Youssou Dabo qui sont en quête d'exploit auront en face d'eux une grosse cylindrée car le Raja de Casablanca, c'est 3 Ligues des Champions et une Coupe de la Confédération. Donc sauf tremblement de terre, le Raja doit passer. Concernant le Djaraf qui s'est incliné à domicile 1-0 face à San Pedro, il faudra sortir le grand jeu pour renverser la tendance car les carottes semblent cuites pour les poulains de Malick Diaf. Élisée.
De la FIFA annonce avoir décidé d'annuler les éditions 2021 de la Coupe du Monde des moins de 20 ans et celle des moins de 17 ans. L'Indonésie et le Pérou, les 2 pays qui devraient organiser ces compétitions, vont accueillir les éditions de 2023, rapporte la FIFA sur son site officiel. On revient vers vous, Amine Birouk. Le coronavirus continue de compliquer l'organisation des événements sportifs internationaux.
La situation sera compliquée tant qu'on n'aura pas trouvé des vaccins efficaces pour pouvoir endiguer cette pandémie. Aujourd'hui, les compétitions FIFA, les compétitions CAF, les compétitions UEFA sont sérieusement menacées. Et preuve en est, comme vous venez de l'affirmer, le report des Coupes du Monde des moins de 20 ans et des moins de 17 ans qui devaient se tenir en Indonésie et au Pérou. On décale jusqu'en 2023. On prend en compte également les résultats des compétitions continentales qui auront lieu entre-temps, dans l'intervalle. Donc la CAN U20 et la CAN U17, si elles devaient avoir lieu, seraient qualificatives pour la prochaine édition de la Coupe du Monde de ces catégories de jeunes. Donc les pays qui y participeront prendront de l'intérêt, mais ce sera pour une autre génération, celle qui devra batailler fort dans 2 ans.
Valdo, il est clairement apparu que la situation sanitaire mondiale ne s'était pas améliorée de manière suffisante pour répondre aux défis associés à ces deux compétitions.
Élisée, cela me paraît comme une évidence. Cette situation sanitaire due à la pandémie à COVID-19 qui demeure jusqu'à preuve du contraire une préoccupation majeure dans l'ensemble. Je pense que la Fédération internationale de football association veut avoir suffisamment de garanties pour ces compétitions et surtout avec cette tranche d'âge qui va sans nul doute nécessiter une attention particulière dans la gestion des effectifs. Pas de risque à prendre tant que les indicateurs sanitaires ne seront pas favorable à réunir du monde pour une compétition de jeunes qui viendront de divers horizons. Je crois fort que d'ici 2023, il y aura plus de garanties et une certaine évolution sanitaire dans la gestion d'une telle compétition parce qu'il est question des indicateurs positifs d'avant compétition qui faciliteront le pendant afin de garantir l'après.
Il faut signaler que cette décision n'aura aucune incidence sur la compétition continentale de la catégorie. Ainsi, les CAN U17 et U20 2021 se dérouleront respectivement au Maroc et en Mauritanie. Le torchon continue de brûler entre la FIFA et la Fédération ivoirienne de football. La dernière décision de l'instance internationale de football de placer la FIF sous tutelle pour conduire le processus électoral à l'arrêt depuis plusieurs mois. Ce protectorat a marqué davantage le désamour entre les deux instances. Une mise sous tutelle que n'accepte pas le comité exécutif de la FIF qui entend utiliser toutes les voies des recours devant le tribunal arbitral du sport. Retour sur cette actualité avec notre correspondant à Bouaké, Siriki Baro.
Selon le communiqué émanant de la FIFA, le comité de normalisation devra gérer les affaires courantes de la Fédération ivoirienne de football. Ce comité révisera partiellement les statuts et le code électoral de la FIF afin de garantir leur conformité. Une pilule que ne digère pas le comité exécutif de la FIF. Par la voix de Sam Etiassé, son directeur exécutif, la FIF entend protester contre cette décision en saisissant le tribunal arbitral du sport.
Jusque-là, la FIFA ne nous a pas notifié une décision parlant de mettre en place un comité de normalisation. Lorsque j'aurai en main ce papier, le comité exécutif va réagir. Si on nous met sous normalisation, c'est pour une mauvaise gouvernance. Est-ce qu'on peut mettre une fédération sous normalisation pour une question du processus électoral ?
Si la fédération conteste cette mise sous tutelle par la FIFA, ce n'est pas le cas pour certains acteurs du football ivoirien. Lors d'une émission sur la 3e chaîne de télévision nationale, Mahamadou Sangaré, président d'honneur de l'Association des entraîneurs de football de Côte d'Ivoire, a ouvertement salué la décision de l'instance internationale du football.
Ça a été une bonne nouvelle dans la mesure où le blocage était tel que nous étions arrivés à un niveau où il fallait vraiment tout mettre un peu à plat pour pouvoir repartir, vu que au niveau de la Fédération ivoirienne de football, il y avait déjà pas mal d'antécédents. Faut pas oublier quand même que c'est l'une des fédérations qui a pratiquement suspendu les 2/3 des présidents de clubs.
En moins de 6 mois, c'est la 2e fois que la FIFA intervient directement dans les affaires internes de la Fédération ivoirienne de football. Siriki Baro, Bouaké, VOA Afrique.
Amine, pour justifier sa décision, la FIFA avance l'argument que les instances dirigeantes du football ivoirien ne sont pas parvenues à organiser une procédure électorale conforme aux exigences statutaires et réglementaires applicables à toutes les associations membres de la FIFA. Cet argument vous semble-t-il suffisant pour prendre une telle décision ?
C'est un conflit d'ego, c'est un conflit statutaire, C'est aussi une situation que la FIFA cherche peut-être à envenimer, puisqu'aujourd'hui, il y a les statuts de la Fédération ivoirienne de football que certains ont tenu à faire respecter. Il y a aussi le calibre du candidat Didier Drogba qui avait été empêché de se présenter. Donc aujourd'hui, c'est l'ego des anciens du football ivoirien contre celui de Gianni Infantino et de la FIFA qui souhaitaient voir Didier Drogba gravir les échelons vers la présidence de cette fédération. Aujourd'hui, on est dans une situation de statu quo et visiblement, chacun s'en tient à sa position. Est-ce que l'on va sortir de cette impasse? Est-ce que la mise sous tutelle de la Fédération ivoirienne sera effective? Est-ce qu'il n'y aura pas un îlot de résistance? Ce sont également des obstacles pour Jack Anouma qui compte se présenter à la présidence de la CAF et qui est représentant ivoirien.
Valdo, aucun des membres de ce comité de normalisation ne sera éligible au poste à pouvoir lors de l'élection des membres du comité exécutif.
Élisée, cela ne justifie pas la mise en place de ces comités de normalisation à qui la Fédération internationale de football association confie la mission d'organiser les élections, mettre une fédération sous tutelle pour tenter de la sortir d'une crise qui dure depuis 6 mois n'est pas du tout la meilleure des options. La FIFA n'a pas le droit de venir imposer sa volonté au sein des fédérations africaines et la Fédération ivoirienne de football ne peut en aucun cas se laisser faire. Il est prouvé que les propositions de sortie de crise de la FIFA ne sont pas les bienvenues. Par contre, elle ne fait qu'empirer la situation. Cette fédération existe depuis le seul recours pour une solution serait les textes qui régissent cette fédération qui doivent être d'application pour organiser les élections et non ce qui paraît comme un agenda caché de la FIFA que cette dernière veut imposer.
Lawal, le comité exécutif de la FIFA porte cette affaire devant le tribunal arbitral du sport. Selon vous, quelle pourrait être l'issue?
L'issue pourrait être que le TAS déboute la FIFA, ce qui me semble difficile à concevoir, ou que le comité de normalisation aille jusqu'à la fin du processus et fasse élire un nouveau comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Et si tout ceci est arrivé, c'est, me semble-t-il, pour relever les erreurs de la commission électorale pendant le processus électoral et redresser les choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a un clivage entre les acteurs du foot ivoirien, ceux qui sont pro et Drogba, ceux qui sont anti-Drogba. Et quand ça va continuer comme ça, c'est une crise latente qui va exploser après, ce qui ne fera pas le bonheur du foot ivoirien.
Justement, est-ce que ça ne mettra pas en difficulté le vote de Jack Anouma?
Bon, me semble-t-il, les Ivoiriens doivent pouvoir être unis autour de Jack Anouma. C'est un candidat ivoirien. Et s'il l'emportait, c'est la Côte d'Ivoire qui sera donc mise en avant. Ils ont intérêt, au-delà du comité de normalisation, à soutenir donc cette candidature. Je ne crois pas, je ne crains pas qu'il puisse avoir donc danger pour son vote. Mais si on ne fait pas vite, on ne pourra pas véritablement aider Jack Anouma à avoir ces votes-là, lui permettant de pouvoir être élu président de la CAF.
La FIFA pouvait éviter cette situation en voulant empêcher à tout prix la candidature de Didier Drogba.
Oui, on a voulu être plus intelligent, on a voulu peut-être empêcher quelqu'un de venir exposer ses nouvelles idées. Voilà, on n'a que les yeux pour pleurer aujourd'hui. Moi, je mets à l'index la commission électorale qui n'a pas pu jouer son rôle.
Il faut ça, mais Tiassé, le secrétaire général...
Est-ce qu'il avait le choix? Il avait été placé par des gens qui avaient une certaine influence sur lui. Donc, il faisait que
la volonté... C'est ça qui l'a mené à
tailler... Des tests sur mesure. Il faisait que la volonté de ceux-là qui voulaient à tous les prix éviter à Didier Drogba d'être candidat.
Ahmedine, quel autre schéma de sortie de crise pourrait-on envisager entre la FIFA et la FIF?
Élisée, il est très difficile de répondre à cette question, mais je pense que le ministère des Sports qui est intervenu pour calmer le jeu pour mettre fin à ce conflit entre la FIFA et la Fédération ivoirienne de football, car pour le directeur de cabinet du ministre ivoirien des Sports, s'il n'y avait pas eu de querelle en interne, la FIFA ne serait pas intervenue pour imposer la normalisation. D'ailleurs, Alaa Yao estime même que la FIFA vient de donner une opportunité aux Ivoiriens pour qu'ils puissent définitivement laver le linge sale en famille. Je pense que cette sortie du directeur de cabinet du ministère des Sports est un avertissement pour les responsables du football ivoirien, car Il faut dire que l'État a choisi son camp et les fédéraux ne doivent pas aller en conflit avec la FIFA. C'est clair, net et précis.
Élisée. On se tourne vers vous, Amine. Finalement, le choix du prochain président de la FIFA sera fait par la FIFA et la CAF.
Maintenant, la situation est entre les mains de la FIFA, de la CAF. On va voir dans quelle mesure il n'y aura pas une position plus conciliatrice et dans quelle perspective s'inscrit également la présence de la CAF dans ce processus. Il faut juste rappeler qu'il y a une date butoir qui est importante dans l'échéancier de la CAF, c'est celle du 12 janvier prochain pour valider les candidatures. Est-ce que ce ne sera pas une épée de Damoclès sur la tête du football ivoirien, et en particulier Jacques Hanouma? Est-ce que ça ne va pas obliger les Ivoiriens à faire des concessions? Ce sont des interrogations qui s'imposent dans un process qui sera long, qui dure depuis trop longtemps d'ailleurs, et qui n'est pas prêt peut-être de s'arrêter.
On prend la direction de la Belgique pour terminer cette émission. Le Sénégalais Mbaye Ley, nommé entraîneur du Standard de Liège, l'ancien lion de la Teranga, a donc été choisi pour succéder au Français Philippe Montané au poste d'entraîneur du club Liège, 11e du championnat belge après 4 défaites de suite. Ahmedine Sy, le Sénégalais de 38 ans a signé un contrat de 6 mois pour sa première expérience.
Oui, Élisée, pour sa première expérience comme coach titulaire, Mbaye Ley va diriger le Standard de Liège pour 6 mois. Mais je pense que sa nomination est une très bonne chose car l'ancien attaquant des Lions du Sénégal connaît bien la maison car il a non seulement porté les couleurs du Standard de Liège, mais il a été également dans le staff technique avant d'être remercié il y a quelques mois. C'est un retour pour lui, mais cette fois-ci, il sera le patron du staff technique. Mais Mbaye Ley aura fort à faire car le Sénégalais doit tout faire pour redorer le blason de cette équipe qui occupe la 11e place du championnat belge qui compte 18 clubs. Une mission qui sera très difficile à réaliser car les finances du Standard de Liège ne sont pas au vert en ce moment, Élisée.
Amine Birouk, Mbaye Ley devient le seul entraîneur africain en poste dans un grand championnat européen.
C'est une belle récompense pour ce cadre africain, Mbaye Ley. On va dire tout simplement c'est le prix de la méritocratie. De deux façons. Tout d'abord parce qu'il a les diplômes requis, les qualifications requises pour pouvoir entraîner en Europe. Il faut juste rappeler que le diplôme ou la licence UEFA Pro est exigé pour pouvoir exercer sur le vieux continent. Il possède cette qualification. Et puis la seconde, regard à son CV, à sa compétence, qui va peut-être lui permettre de réussir là où d'autres ne se sont pas encore hasardés, faute de qualification ou faute d'audace. Il faut juste rappeler qu'il se retrouve à la tête d'un grand du football belge, le Standard de Liège, bien mal en point, et qu'il va falloir véritablement que les résultats soient ses meilleurs alliés. Avec de bons résultats, il pourra survivre sur le banc de touche et prouver la compétence du cadre africain. Si les résultats ne suivent pas, il rentrera certainement dans les rangs et ce sera tout simplement un coup d'épée dans l'eau.
Valdo, c'est des faits rares de voir un entraîneur quitter l'Afrique sur le banc d'un club de grand championnat africain.
C'est un fait très significatif pour l'homme et tout un continent, quand bien même il n'a que 6 mois pour faire ses preuves en tant que titulaire du Standard. Et il arrive au moment où Standard est à la quête d'une victoire pour changer d'air. Et lorsqu'un entraîneur a atterri dans un club en pareil moment, c'est un sauveur qui est attendu et non un homme ordinaire qui va rester dans la continuité des mauvais résultats. Le défi est tel qu'il doit aider les clubs à mieux faire. Ce qui est important, Mbaye n'est pas nouveau au Standard. C'est peut-être son actuel poste qui fait de lui nouveau. Il connaît les clubs et ses méthodes et il sait qu'avec ses nouvelles fonctions, c'est tout un continent qui aura les yeux sur lui. Et sa réussite va certainement ouvrir les portes à d'autres entraîneurs africains qui auront la chance vers d'autres clubs.
Lawal, le voici désormais à la tête d'une équipe en chute libre depuis fin octobre. Le défi est grand, pour ne pas dire énorme.
Non, le défi est grand, certes, mais le connaissant, il connaissait bien déjà la maison, c'est son statut qui change simplement. Il va forcément faire ce qu'il doit. On lui laisse les mains libres pour faire son travail. Et il faut qu'il fasse un recrutement, qu'il puisse véritablement remettre l'équipe en selle. 11e sur les 18, j'espère pour lui qu'il va faire quelque chose de miraculeux pour que l'on puisse véritablement mettre son nom dans les grands livres d'or de l'histoire du Standard de Liège.
Merci Lawal.
Élisée, c'est moi.
C'est déjà fini pour Sporama, le tout premier numéro de 2021. Merci de votre attention durant tout le temps. 2021 nous apportera plus de joie. Vous tous, auditeurs de la VOA, je vous souhaite le meilleur. Au revoir.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com.